Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Nous sommes en guerre.
Cette campagne, mais c'est une campagne de merde.
Nous ne sommes pas en guerre.
C'est pas digne.
Jean Lassalle.
Ne sifflez personne. La bienveillance et le respect nous caractérisent.
J'ai marché avant toi, j'ai fait moins de tapage, et moi j'ai fait 6000 kilomètres, et toi t'es resté chez toi. Et j'ai mis 9 mois pour marcher. Tandis que l'autre, il a fait 2 fois le tour du salon, il a dit « marche, ça a marché ».
Je m'en fiche, royalement, totalement, présidentiellement.
Monsieur le Président, calme-toi, viens faire campagne, tu n'as rien dit, tu as peur de toi-même, et tu vas perdre si tu continues comme ça. Tu vas perdre.
Je suis optimiste.
C'est-à-dire, on vous considère comme un sous-candidat, quoi.
Un candidat de merde et inutile.
De merde ?
De merde, oui.
Les lieux d'échangisme ou de libre-échangisme sont restés ouverts durant tout le confinement. De très nombreux de nos collègues y avaient leurs habitudes dans des mandats précédents.
Ah là 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 là, oui, l'échangisme, ça me rappelle un ami qui me disait « Je suis violemment anticommuniste, sauf sur le plan sexuel ». À chacun ses options, n'est-ce pas ? C'était évidemment, vous avez reconnu Jean Lassalle, que nous allons recevoir incessamment sous peu, et on est ravis de le recevoir, parce que Jean Lassalle, lui, au moins, il n'a ni sa langue dans sa poche, ni ses idées dans sa poche non plus. Il est ouvert, et c'est pour ça qu'on est content de le recevoir, Jean Lassalle. Mais en attendant, nous allons parler d'autre chose. Nous allons parler du Doctoton. Oui, un nouveau Doctoton. 24 heures qui va se passer dans les prochains jours. Et nous allons recevoir Augustin de Colnay sur ce qui se passe avec les entreprises françaises à l'heure de la compétitivité, de la compétition économique. Et ce n'est pas seulement l'économie, c'est l'espionnage, c'est les brevets, c'est la protection. À l'heure où Russie, Ukraine, Chine et États-Unis sont engagés dans une guerre économique mondiale, elle est déjà là. Que font nos entreprises françaises ? On en parle tout à l'heure.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
On a eu, et c'était une entreprise, et c'est une entreprise formidable, Téléthon, effectivement, et qui marche toujours, et tous ces mouvements de solidarité envers et les malades, et pour combattre les maladies, quelles qu'elles soient, c'est à encourager. Et puis, plus récemment, il y a en ce moment le Pécresse-ton. Vous savez, il faut renflouer le Parti Républicain. Valérie Pécresse a besoin de 5 millions d'euros. Et là, je vous demande quand même, je suis sûr que les auditeurs de Sud Radio n'ont pas fait ça. Mais arrêtez d'envoyer des chèques de 0 euro ou 1 centime. Non, ça ne se fait pas, Franchement. Non, c'est de mauvais goût. Alors, plus sérieusement, il y a depuis quelques mois, Cécile Maïchak et une équipe qui ont lancé le Doctoton. Le Doctoton, c'est pendant 24 heures ou 12 heures des médecins qui parlent et qui racontent, et des médecins, des spécialistes, des experts qui racontent ce qui se passe sur le front, non seulement du Covid-19, non seulement des soins, mais du médicament et des vaccins. Bonjour Cécile Maïchak.
Bonjour André Berkoff. Alors, merci beaucoup de me recevoir.
Mais je vous en prie. Cécile Maïchak, vous repartez donc avec un Doctoton samedi sur 24 heures, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait.
Alors,
de samedi à 18h jusqu'à dimanche 18h.
Donc de samedi à dimanche 18h, c'est bien, c'est dans l'entre-deux tours au moins. Les gens vont être effectivement à l'écoute. Alors, il s'agit cette fois-ci de parler des effets secondaires ou des dommages collatéraux des vaccins. C'est ça ou c'est encore plus général, Cécile ?
Non, c'est très ciblé exclusivement effectivement sur les effets indésirables des injections Covid, oui, tout à fait.
D'accord. Alors, qui sera là ? Non, pas tous les noms, bien sûr, mais ce seront des médecins, des scientifiques, des chercheurs d'un peu partout. Dites-nous un peu qui va participer.
Mais exactement ce que vous venez de dire, donc médecins, scientifiques, chercheurs, mais aussi quelques victimes directes, des associations qui regroupent des victimes, comme Verity France ou Mon Cycle avec Mélodie.
D'accord.
Aussi quelques psychologues, parce que ça a parfois un impact psychologique important.
Oui.
Et des avocats également qui vont s'exprimer. Tout
à fait. D'accord, d'accord. Et chacun aura droit à peu près, c'est quoi? C'est toujours 3 à 5 minutes de parole, c'est ça?
Non, cette fois, on a fait un peu plus long parce que c'était difficile de couper les gens en pleine expression d'autant de souffrance.
Bien
et
sûr.
Donc, ce sont des plages de 10 minutes cette fois, d'autant plus que des médecins vont arriver avec plusieurs témoignages. Donc,
d'accord.
C'était important d'augmenter le temps.
D'augmenter le temps. Alors, dites-moi, pour je pense que vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont évidemment écouter et suivre cela. Rappelez-nous sur quel site ou sur quelle plateforme faut-il vous suivre sur ce Doctoton?
Alors, il y a deux choses qui peuvent être faites. La première, c'est d'aller sur le site directement www.doctoton.org et là, tous les liens y sont.
Oui.
Et sinon, il y a un endroit le plus sécurisé, c'est Crowdbunker avec qui nous sommes partenaires aujourd'hui. Et donc, Crowdbunker va diffuser l'émission.
Crowdfunder, ça s'appelle comment pour être
Alors, C-R-O-W-D.
Ah oui, Crowdfunder. D'accord.
B-U-N-K-E-R.
Ben écoutez, Cécile Machac, je pense qu'on va vous suivre. On va regarder. C'est un vrai problème. Nous, on en parle évidemment à Sud Radio et à l'émission. On va continuer d'en parler. Et en tout cas, écoutez, tout ce qui est veille, tout ce qui est alerte, tout ce qui est lanceur d'alerte est le bienvenu quand il s'agit d'observations évidemment vérifiées, solides et dont on a besoin. Voilà, c'est loin de tout rumeur, complot et autres. Il y a de vrais problèmes. Il ne s'agit pas de les masquer, de les cacher sous le tapis. Il s'agit de le faire. Merci Cécile Machac.
Merci beaucoup.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Lanceur
d'alerte.
Lanceur.
La parole est à M. Sarkozy.
Mesdames et messieurs les députés, le Premier ministre vient.
Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter dans cet hémicycle. Asseyez-vous. Monsieur, comment il s'appelle lui? Monsieur l'huissier, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît.
Eh ben, dis donc. Eh bien, vous savez que ce chanteur, non, c'est pas Alain Barrière. Non, ce n'est pas Alain Barrière. Non, ce n'est pas Michel Sardou. Non, ce n'est pas Johnny Hallyday. C'est beaucoup mieux. C'est Jean Lassalle. Jean Lassalle, le député, le formidable député des Pyrénées-Atlantiques, candidat à la présidentielle du parti, son parti Résistons, je le rappelle. Et Jean Lassalle, bonjour.
Bonjour cher André Berkoff, et permettez-moi de vous dire que je me régale toujours autant en écoutant votre indicatif historique.
Vous savez, Radio Londres.
Radio Londres. Ça veut dire beaucoup de choses pour tellement de Français qui aimeraient simplement être écoutés.
C'est vrai, c'est pour ça qu'on dit ici Sud Radio, les Français parlent aux Français, parce que radio libre. Et oui, vous savez, ça, vous vous rappelez qu'on disait les radios libres en 81, quand on l'a libéré. Et puis, il y a eu de moins en moins des radios libres, mais là, voilà, nous avons une radio libre, et nous le resterons, je l'espère, j'en suis sûr. Alors Jean Lassalle, d'abord, je voudrais rappeler, vous avez décidé de faire des dons aux Républicains, au PS et aux écologistes. Que nouveau cette...
Écoutez, vous savez, cher André Berkoff, nous avons toujours fait des choses simples. Nous étions en réunion lundi soir de la petite équipe de campagne, pas la grande, mais la petite, j'ai une équipe flamboyante de jeunes extraordinaires qui vraiment ont été formidables, avec ma directrice, que vous avez, je pense, reçue, Dalila, oui, qui est absolument énorme. Et alors, tout d'un coup, l'un d'entre nous, des jeunes, dit, tiens, il y a Valérie Pécresse qui fait un appel aux dons, comme ça, dans la réunion. Et aussitôt, tout le monde s'interpelle, se regarde, et il y en a un qui dit, je crains que ce ne soit un de mes fils qui était là, j'avais 3 enfants, 2 fils et une fille, qui était là par l'aîné qui joue toujours au rugby, et qui dit, mais on devrait faire un don. Et tout le monde dit, mais c'est génial, on va faire un don, voilà comment c'est parti.
Ouais.
Et alors, au départ, il faut dire les choses comme elles sont, il y avait un petit brin de, comment je devrais dire, de plaisanterie, de, d'ironie. Pas, pas d'ironie, parce qu'on n'est pas méchant.
Bien sûr. Non, non, mais bien sûr, d'ironie. Non,
mais c'est pas gentil. D'ironie, ce serait de sourire, voilà. Ouais. Et puis après, ça a pris une proportion qui nous a... Alors, par bonheur, j'avais le trésorier juste à côté, qui pourtant est un trésorier hyper sérieux, je le connais depuis 40 ans, il ne débourse pas un euro d'inutile. Il m'a tendu le chèque parce qu'il a trouvé que c'était bon. Donc, j'ai jamais dit à personne le nom, montant, parce qu'on avait dit qu'on ne le disait pas. Mais hier soir, j'ai dit, aujourd'hui, je rencontre André Berkoff, je ne vais pas aller faire des mystères à André Berkoff pour ce qu'on a fait. Alors, au fond, je me suis dit, quand j'ai bien analysé la situation, il y avait ce sourire. Mais quelque part, il y avait aussi un brin de, au fond, ces candidats ont été des candidats malheureux, comme moi, ils ont été battus. Et tout le monde se défend, tant qu'il peut, tant qu'il peut. Bon, ils ont des ennuis financiers auxquels je vais peut-être un peu échapper cette fois-ci, alors que j'ai pas été épargné la fois d'avant. Même si personne ne m'a rien demandé, je m'en suis sorti. Mais on s'est dit, tiens, voilà, pourquoi ne pas faire un geste, montrer que dans ce monde impitoyable, il peut y avoir un peu d'humanité. Donc, on a fait un chèque de 10 euros à chacun. Alors, depuis, on m'a dit... mais c'est une honte, on pensait que Résistant n'avait pas une thune, et si tu crois qu'on va payer des cotisations pour donner de l'argent à des adversaires, etc. D'autres m'ont dit, mais j'espère que vous avez donné au moins 1000 euros à chacun. Enfin, bref, non, j'ai donné 10 euros parce que j'avais pas les moyens de... C'est comme un mec qui hurle à la mort parce qu'il est en train de se noyer. Moi, je sais pas nager. Je pouvais pas lui envoyer non plus un canot de sauvetage parce que je n'ai pas l'argent. J'ai voulu lui envoyer une bouée de sauvetage.
Oui, oui.
Une petite bouée.
Mais imaginez que 20 millions de Français fassent comme vous, Jean Lassalle. Vous imaginez? Ils sont tous renfloués et beaucoup plus que renfloués. Mais, donc c'est bien, c'est le geste qui compte.
Voilà, et le panache, quelque part.
Et bien sûr, le panache. Alors, Jean Lassalle, on va faire un bilan quand même de tout ce qui s'est passé. On est dans l'entre-deux-tours aujourd'hui. Vous avez dit quand même, et c'est devenu une des... Vous savez que les génériques, on fait des génériques, Thibaut Sadler fait des génériques, des teasings, comme on dit, on n'a pas le mot en français. Et votre, quand vous avez dit « cette campagne, c'est une campagne de merde », revient pratiquement chaque jour au début de mon émission. Pourquoi campagne de merde, très franchement, mais là avec le recul?
Parce qu'elle l'a été.
Elle l'a été vraiment.
Et elle le reste. Ouais. Malheureusement. Pourquoi campagne de merde? Parce que je le vivais en tant que moi-même. En tant que candidat, un des 12 candidats. J'avais coché toutes les cases de la Constitution. Et la première, c'est quand même d'avoir les 500 parrainages. Vous l'avez vu, ce qui est loin d'être facile. Et ceux qui chantaient le plus n'ont pas été ceux qui les ont eu le plus facilement. Parce que les maires, il fallait les voir. Deuxièmement, j'avais, après un examen de toute ma vie, le droit constitutionnel de me présenter. Et troisièmement, j'ai pu fournir, grâce à mon épouse, l'état de mon patrimoine en bonne et due forme. À partir de là, on vous délivre un billet, que d'ailleurs le secrétaire général m'a délivré à 23h30, je ne pensais pas qu'on travaillait si tard au Conseil constitutionnel, et il était heureux que je sois candidat. Enfin, je n'aurais pas le droit de le dire, mais je suis éliminé maintenant, donc on s'en fiche. Voilà. Donc, à partir de là, je suis candidat. Et qu'est-ce qui se passe? Je continue, à part Sud Radio, et parce que je ne veux pas les oublier, dernière édition, là, de Paris Première, invité nulle part. Ça continue, et ça continue. Et il n'y a que le jour où je réussis à trouver une porte à laquelle je mets un coup d'épaule, genre Lino Ventura. Pim ! Je la défonce. C'est le jour du congrès des maires. Il y a un peu plus de 3 semaines, c'est-à-dire ça ne remonte pas au siècle dernier. Ouais. Jusque-là, invité nulle part. Rien. Voilà, mais je rentre pas dans les détails. Et qu'est-ce que j'entends depuis 2 ans? Mais les pires âneries que l'on entend partout. Alors, jusqu'à maintenant, c'était les hommes politiques dont la lâcheté de notre époque aura du mal à être dépassée dans notre longue histoire. Mais maintenant, c'est une catégorie, hélas, de journalistes et de grands éditorialistes. Alors, je profite d'André Berkoff parce que vous avez le sens de la nuance tout en étant un homme engagé. Moi, je m'en prends pas aux pauvres petits journalistes. Il n'y a pas de petits journalistes comme il n'y a pas de petits candidats, mais aux journalistes qui gagnent sa vie. Mais c'est les grands éditorialistes.
Il y a de très bons journalistes qui font leur boulot, voilà. D'autres... voilà.
Mais là, après le Congrès des maires, j'avais les plus grands en face. Donc, ils voulaient me voir. Eh bien, je leur ai dit, Eh bien, vous êtes en train de rattraper notre niveau de lâcheté. Vous êtes des lâches, parce que vous savez très bien pour qui vous travaillez, vous savez très bien que Niel ne vous achète pas parce qu'il est passionné par les 500 journalistes du monde, il n'en a rien à traire, comme on dit chez nous. Ce qui l'intéresse, c'est que vous ne disiez pas ses petites affaires et qu'il puisse continuer son trafic. Pareil pour M. Bertrand, pareil pour M. Il s'appelle l'autre qui s'occupe aussi de beaucoup de choses, je l'ai noté ici.
Non, on les connaît, on les connaît.
Oui, alors on les connaît tous. Et de l'autre côté, Bolloré, qui s'était un peu attardé parce qu'il attendait Sarkozy la dernière fois, mais Sarkozy est arrivé en retard, mais on lui a quand même laissé acheter 52 maisons d'édition en 5 ans, ce qui est une honte absolue pour un pays si jaloux de sa liberté d'expression. Ils sont tous ensemble.
On continue à en parler, en tout cas, en toute liberté d'expression, Jean Lassalle, et vous avez effectivement votre parole, et vous l'assumez, après cette petite pause, à tout de suite.
Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Eh bien, nous sommes toujours et nous en réjouissons, et vous aussi, je sais, auditeur de Sud Radio, avec Jean Lassalle, député des Pyrénées-Atlantiques, candidat à la présidentielle du parti Résistons. Bon, on connaît les résultats du premier tour, mais je voudrais aller plus loin, Jean Lassalle. Vous avez écrit une lettre à vos sympathisants, à vos militants, aux inconnus, et je rappelle quand même que plus d'un million de Français ont voté pour vous. Ce n'est pas rien, c'est le moins que l'on puisse dire, mais vous finissez cette lettre, cette admonestation, en disant ceci. Enfin, rien ne m'aura plus choqué durant ma longue vie publique que d'entendre des consignes de vote. Il n'y a rien de plus choquant que de considérer les Français comme incapables de choisir par eux-mêmes, comme si dans ce domaine, là encore, nous n'étions pas des citoyens libres et responsables à part entière. Il n'y a pas deux France, ni trois, ni quatre. Il y a une France éternelle et son peuple souverain. Mais alors, pendant la campagne, on l'a cru dégager trois France. Bien sûr qu'il n'y a qu'une seule France, mais enfin, grosso modo, la France de Macron, celle des métropoles actives, la France de Marine Le Pen, celle des cités et des communes, elle a été en tête dans plus de 20 000 communes, des cités et des communes de la France périphérique, dont parlait le sociologue Christophe Guillouis, le géographe, et enfin, la France des quartiers, etc., de Jean-Luc Mélenchon, peut-être, disent certains, votes communautaires ou autres, en tout cas, une France jeune aussi, et peut-être révoltée, à tort ou à raison, mais ce que je voudrais, Jean Lassalle, c'est avoir votre point de vue, votre analyse. Vous êtes dans la politique depuis combien de temps, et depuis des décennies? Comment vous avez vécu, non pas sur le plan de votre campagne personnelle, mais sur le plan de ce qui se passe en France, de ce que devient ce pays?
Écoutez, dans ce que vous venez de dire, je retrouve une grande partie de ce qu'on m'a dit. Quand j'ai constaté que je n'avais pratiquement aucune chance de me faire entendre, l'idée nous est venue de prendre un bus et de partir à la rencontre des Français. Bon, j'avais déjà fait un tour de France que j'avais appelé La Marche, oui. 6000 km à pied pendant 9 mois, vous m'aviez reçu, on avait parlé de tout ça. Mais déjà à l'époque, on m'avait tout dit. Le problème, c'est que je l'ai rendu à François Hollande, qui était président de la République, et j'ai trouvé un jeune homme qui était très intéressé. Je lui ai dit, mais qui tu es? Toi, tu es vachement intéressé, tu es un jeune homme intelligent, tu es un jeune énarque ici, ou qu'est-ce que tu fais? Il y en a un stage. Il dit, non, je suis le nouveau secrétaire général de l'Élysée. Ah, si jeune! Alors lui, il a pris toutes les notes. Un an après,
c'était Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron. Un an après, il y a deux, là, les deux potasses, là, qui font un peu la bringue, qui disent un peu de mal de Hollande. Déjà, ça n'allait pas bien. Viré. Et je vois notre Macron, je le retrouve, ministre
l'économie et des
l'économie,
finances.
Voilà. Oui. Avec quand même un certain nombre de changements. Bon. Et deux ans après, un an et demi après, qu'est-ce que je vois? Il avait fait deux fois le tour de son salon, les mains derrière le dos. Il a dit « En marche !» et ça a marché. Il a tout pris à la salle. Sauf que moi, ce n'était pas pour amener la France chez Rothschild, c'était pour les amener la France à la France. L'homme qui retrouve l'homme. Voilà déjà une affaire. Alors, qu'est-ce que j'ai entendu? D'abord, il y a le pouvoir d'achat, c'est le souci numéro un partout. Deuxièmement, il y a malgré tout une préoccupation sur la France. Et ça, c'est le plus étonnant.
La France, qu'est-ce que c'est, l'identité française ?
Qu'est-ce que c'est la France ? Même, j'ai vu le soir de Lyon, où on a fait une maraude, j'ai rencontré, mais vraiment, beaucoup, beaucoup de sans domicile fixe, mais, oui. mais très lourds. J'en rencontre aussi, c'est pas la première fois. Mais il y en a un qui est même venu à Toulouse pour discuter avec moi. Il y a 3 ans, il était chef d'entreprise. Il suffit d'un truc mal compris, et c'est la dégringolade. Tu peux pas payer la maison, ta femme fout le camp, les enfants, ou ton mari, parce que c'est voilà, pas une question de... Voilà, ou ton compagnon. Bon, voilà. Et tout est fichu. Et ce qui m'a frappé, c'est justement, mais ouais, où va la France ? Est-ce qu'elle existe encore ? Et, mais es-tu, quand est-ce qu'on va réagir ? C'est un pays qui a permis à l'humanité tragique de tellement monter en civilisation, parce que nous sommes issus du règne animal, du « je te mange parce que je suis plus fort que toi ». Le loup est un loup pour l'homme.
La loi
de la civilisation nous a haussés après tant de traités, de magnifiques documents, dont la déclaration du peuple souverain et la formidable déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on n'a pas besoin de la lire 2 fois, nous a permis d'avoir une dimension universaliste. Donc, ils savent bien, au fond d'eux-mêmes, qu'il n'y a pas que la France, mais c'est aussi l'humanité, parce que la France est un des rares pays qui peut parler à l'humanité. Et c'est assez étonnant, mais l'une des préoccupations, c'est est-ce que la France ne va pas sortir de l'histoire et disparaître ? Voilà, alors, c'est-à-dire, après...
On vous l'a dit, ça, Jean Lassalle, on vous le ressentit, on vous l'a dit.
Mais comme avec, ça. Avec toute mon équipe, ouais. avec beaucoup de jeunes. Mais la meilleure, c'est que les jeunes, qui n'ont pas la même attitude que nous, nous étions plus politisés à leur âge. On était de droite, on était de gauche, on était du centre, on était de ceci, de cela. Et puis, il y avait de vraies élections. Vraiment, c'était pas pour rire. Sauf que la dernière, la vraie, c'est Giscard d'Estaing et Mitterrand en 81, si on veut bien regarder les choses. Parce qu'après, c'est la dernière, ça a été... Après, ça
alors,
a été
les jeunes, rien. Qu'est-ce qu'ils vous disaient, justement ?
Et mais les jeunes, aujourd'hui. C'est la préoccupation numéro 1. Ils m'avaient déjà invité, et depuis plusieurs années, dans leurs grandes écoles, que j'ai fait pratiquement toutes, et j'ai rempli, je ne vais pas me vanter, mais c'est la vérité, à 2 reprises, la Sorbonne. Le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Le dernier qu'il avait rempli, c'est l'ancien ministre de la Justice de Mitterrand, qui a aboli la peine de mort, c'est-à-dire Badinter.
Badinter. Bon, alors, donc, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ?
Ils disent la même chose. Ils disent, nous, on a eu la chance d'étudier, mais on n'a pas de repère. Au fond, nos vraies chances de promotion, mais ça on le savait déjà, c'est d'aller à la Silicon Valley, même en Chine maintenant, et en Australie, et d'ailleurs j'ai un fils qui a fait ça, qui est revenu, etc., et une fille qui a été aussi à l'étranger. Bon, il ne se voit pas d'avenir parce qu'il n'y a pas de construction autour qui permette de voir. Et puis il y a ceux qui n'ont malheureusement reçu aucune formation, et on retrouve votre France périphérique. Et le malheureux Julie, on m'a dit, Christophe, qu'il avait pris mal. Je lui dis, si tu m'entends, retape-toi, on a besoin de toi, ne te laisse pas démoraliser. On a besoin de tous les guerriers. Et puis, il y a les banlieues, qu'on a complètement laissées tomber, et j'ai été les visiter. Non seulement pendant mon tour de France, je suis le seul à me les avoir tapés, si j'ose dire, 50, parmi les plus chaudes, entre 1h et 5h du matin, il m'est rien arrivé. Costard, cravate, il fallait quand même le faire. Et là, j'ai été reçu l'autre jour, mais bien.
Mais Jean Lassalle, pardon, sur les banlieues, juste, il y a une politique de la ville où ont été téléversés des dizaines de milliards d'euros. Alors, on ne comprend pas, à chaque fois on dit les banlieues, effectivement, elles sont... Mais qu'est-ce qu'on a fait de tout cet argent qui a été déversé, de toutes ces aides ?
Parce qu'on croit que l'argent règle tout. Alors, d'abord, l'argent, il est cruellement sorti de la sphère publique. Ce n'est pas un vieux problème, il y a depuis qu'on a, je pense, découvert les Indes et les Amériques, bien sûr... Que le pauvre Magellan et ses comparses n'avaient rien fait de mal. Mais les marchands qui ont ramené des montagnes d'or et d'argent font que l'humanité de l'époque n'a jamais eu autant de richesses. Même la grande Cléopâtre, tout ce que vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'on a eu dans ces cas-là ? Un premier cas de figure, c'est que malheureusement, ceux qui prennent d'argent pour s'en servir à leur fin personnelle, le faire fructifier.
Beaucoup sont les plus nombreux, etc.
Voilà. Et les autres, malheureusement, sont plus timides. Et c'est à cette époque-là que sont nés simultanément et le capitalisme et le communisme. Et j'avais lu à cette époque-là, le Capital, j'avais pu vérifier. Et les deux ont été essayés au XXe siècle avec les horreurs que nous avons connues de part et d'autre. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il faut retrouver l'homme. Et il faut aller vers ces hommes et ces femmes avec beaucoup plus d'humilité et créer des emplois nouveaux. Moi, je pense beaucoup aux médiateurs formés. C'est des formidables emplois de jeunes qui ont envie d'aventures, de contacts, de relations. Et les jeunes d'aujourd'hui sont comme ça. Et puis ensuite, il faut retrouver, il faut reconstruire un État. Celui que nous avons aujourd'hui n'inspire plus confiance à nos compatriotes. Il s'occupe un peu de Bruxelles, il s'occupe un peu du monde, il s'occupe un peu de tout et de rien. Donc un État, pour qu'il redevienne un symbole, et qu'il redevienne
un État fort,
mais et... en même temps rassurant.
Oui, bien sûr.
Parce que la France s'est construite autour de ça, et ensuite, je voulais reconstruire, et il faut le faire, l'ensemble des territoires. Les territoires, c'est aussi bien le rural que les banlieues.
C'est vrai,
et à partir de ce moment-là, j'ai injecté 4 ou 5 points dans la recherche, 4 ou 5 points, 4 ou 5% du PIB dans la recherche, comme l'avait fait le général, entre 60 et 70. Et à ce moment-là, on est devenu en 10 ans, eh bien, les champions, même dans le spatial, on est devenu 3e.
Je ne parle pas des trains, des avions. Autant du plan, etc. Mais vous savez qu'aujourd'hui, la France est vendue à la découpe, on vend un certain nombre de choses, on ne va pas en discuter. Moi, je voudrais revenir à aujourd'hui, parce que la politique, hélas, c'est vrai, vous parlez de l'homme, mais c'est un rapport de force, et la politique, c'est comme ça, on peut s'en réjouir ou le déplorer, c'est un rapport de force. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, je sais que vous détestez, vous l'avez dit, les consignes de vote, mais est-ce que franchement, deux choses, je vous demandais. Est-ce que le vote, et Dieu sait, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Abstention, piège à con ». Et en même temps, est-ce que le vote a encore de l'importance? On a l'impression, beaucoup de gens ont à tort peut-être l'impression que tout est joué. Et deuxièmement, et surtout, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui où les gens se disent « On ne vote plus pour, on vote contre, on vote pour faire barrage, on vote pour... » Vous entendez ça tous les jours, on ne dit que ça. Est-ce que tout ça, les dés ne sont pas pipé, en fait, Jean Lassalle?
On est dans un entre-deux tragique et incertain, entre aurore et crépuscule, qui était le titre de mon dernier livre. Et c'est très exactement ce que vivent les Français. D'abord, nous ne faisons aucune illusion. Les instituts de sondage, qui appartiennent aux mêmes propriétaires que ceux que j'ai cités, ont arrangé la finale idéale qui leur convenait et qu'ils voulaient. Ils sont en train de faire tous les efforts inimaginables pour faire gagner ce brave Macron une fois de plus. Alors moi, j'ai choisi de voter blanc, et j'ai dit, vous l'avez rappelé, puisque vous avez été intelligent au point de me choisir, vous êtes assez intelligent pour faire votre choix. Faites-le en votre âme et conscience. Et surtout pas de conseils. Vous êtes grand, vous êtes le peuple. Alors, effectivement, maintenant, ça va être 10 jours de pression exacerbée. Mais on disait, la politique, c'est toujours... Non, aujourd'hui, c'est plus de la politique. La politique, c'était un échange d'idées. Projet contre projet. Parfois, un rapport de force, et parfois musclé. Parce que la France adore la politique. Mais que voulez-vous que le pauvre Français... Enfin, c'est pas un pauvre Français, mais que le Français se fasse comme une opinion en lisant aujourd'hui Le Monde. Le Monde, mais c'est une déchéance totale. Je regrette parce que j'ai aimé ce journal. Même du temps de Beuve Méry qui s'opposait à De Gaulle, mais avec quelle classe? Aujourd'hui, il n'y a aucune classe.
Mais
tout,
oui, mais
tout y est et tout est mêlé.
Mais il n'y a pas que Le Monde, il y a tous les autres médias, bien sûr. Non, je veux dire par là que, est-ce que le Français a le temps aujourd'hui, parce qu'il travaille, parce que chacun a son truc, de se faire sa propre opinion? C'est du boulot, c'est du travail, il faut regarder, il faut chercher, nous, c'est notre boulot, donc on le fait, mais c'est pas facile.
Moi, je continue à croire, même si ce sera insuffisant cette fois-ci, de toute façon, avec cette finale, à la conscience des peuples. Voyez, ce dont nous sommes tous le début, ou alors un passeur, ou alors nous sommes la conscience des peuples. Et je crois à l'intuition. Les Français ne se trompent pas. Ils savent bien que dans cette affaire, ils sont dans un mauvais pas depuis une trentaine d'années. Sauf que maintenant, nous arrivons à un paroxysme absolue, qu'ils ne supportent pas. Alors moi, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, parce que c'est difficile, mais quel que soit le cas des figures, entre un côté diabolisé, l'autre côté quasiment porté au pinacle, il faut sauver la liberté à tout prix, le monde est en danger, etc. Mais enfin, on est en danger de quoi? Nous sommes déjà en dictature, parce que nous ne sommes plus libres de nous exprimer, sans quoi vous êtes lassalisés. Vous savez, Berkoff, lassalisé, ça veut dire, verbe du premier groupe, être mis à l'écart de tout. Lorsqu'il avait des opposants, Staline les envoyait en Sibérie. Lorsque les Américains en avaient, ils les envoyaient à Guantanamo. Ici, maintenant, comme en Allemagne, comme dans le monde, on te laisse te dessécher sur place. On ne te demande plus rien et on attend que tu crèves comme un chien. Et là, tu dis plus rien. Et donc, il faut... Moi, j'ai espoir, malgré tout. Parce que ça va être un moment difficile, que je ne supporte pas. D'ailleurs, il n'est pas... Je dis sur cette radio des choses que je ne dis pas habituellement, mais il n'est pas... impossible de penser que j'en tire des conclusions. Non pas pour m'en aller, j'aime trop le pays. Et vous avez été le premier, André, à dire, et ça m'avait beaucoup touché à l'époque parce que j'étais trop foyer, que je pouvais jouer un rôle dans ce pays au cours d'une magnifique bande dessinée que j'ai toujours gardée et qui avait eu un succès extraordinaire. Moi, je dis, peu importe où se trouvent des hommes de résistance, ils choisissent leur lieu de résistance. Mais il ne faut pas que la résistance baisse, qu'elle s'effondre, au contraire. Alors maintenant, nous allons passer ce mauvais moment, j'en suis persuadé, et après,
je pense qu'il
y aura... Non, il faut qu'il y ait prise de conscience. Je l'avais dit à Tsipras, que j'ai vu 3 mois avant qu'il prenne le pouvoir en Grèce. D'ailleurs, tout le monde a pleuré, parce qu'après le Tour de France, j'ai fait un Tour d'Europe. Et Karamanlis pleurait parce qu'il était à la tête du plus grand parti d'Europe, le parti socialiste qui s'effondrait, et Tsipras. Je vais dire, Tsipras, tu ne réussiras pas. Tu n'as pas préparé ton peuple. Tu vas voir quand ça va te tomber dessus, tu vas voir quand les grandes banques mondiales vont te tomber dessus, ils vont tout enlever. Et tu n'as pas des troupes prêtes à cela. Nous, et ça doit être partie, ça doit faire partie de notre boulot à nous, vous le faites, André Berkoff, avec votre micro, moi je vais le faire, avec ce qui me reste de plumes et de verve, il faut recréer les bases de la résistance.
Absolument. Merci Jean Lassalle, merci. Et franchement, tous auditeurs du Sud Radio, vous savez que chacun a à faire sa part du boulot.
Voilà, merci. Exactement.
Merci beaucoup Jean Lassalle. Et vous dites croire à la conscience des peuples, mais les peuples ont-ils conscience de la guerre économique qui se joue? On en parle dans un instant et vous nous appelez au 0826 300 300.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente...
Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkoff dans tous ses états.
Alors, ce qui est toujours intéressant quand il reste deux personnes, vous savez, avant le scrutin, là, le prochain, c'est, on saura qui sera notre prochain président de la République. Est-ce que ce sera Emmanuel Macron, qui est réélu, ou Marine Le Pen, qui arrive au poste suprême? Mais en attendant, alors l'un et l'autre reçoivent des torrents de « attention, si c'est elle ». Attention, si c'est lui, c'est l'apocalypse. Vous ne croyez pas qu'on est à ce stade? Écoutez.
Sud Radio Berkoff dans tous ses états, les perles du jour.
Misère, misère, c'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément. Misère, misère, ça sera donc toujours les salauds qui nous boufferont le caviar sur le dos. Misère, misère.
C'est évidemment, vous l'avez reconnu, Coluche, avec toujours sa parodie comme ça, des chansons dites populaires. Misère, misère, mais alors je vais vous dire, l'argument marche apparemment. Parce qu'on a entendu deux personnes, une personne et un journal. Gérald Darmanin, notre ministre de l'Intérieur, carrément a dit aux Parisiens, attention, avec Marine Le Pen, les pauvres vont peut-être mourir. Et oui. Comment ? Si. Si effectivement Marine Le Pen est élue, eh bien, les pauvres Vous savez, quand les gros maigrissent, les maigres meurent, et voilà, Marine Le Pen, mais pourtant, on a déjà 300 000 SDF, et on connaît le niveau médian, le salaire médian des Français, il n'est pas d'un glorieux absolu. Oui, mais alors, justement, mais si d'après Gérald Darmanin, si Marine Le Pen arrive, ça va être encore pire, est-ce que ça va être la misère de Coluche? En tout cas, voilà ce que les adversaires, évidemment, de Marine Le Pen prédisent, et on va très très loin. Alors ça, c'est très intéressant. C'est qu'il y a eu un article dans l'Obs, une chronique, qui dit ceci, je vous le lis mot pour mot exactement. Si Marine Le Pen était élue, elle pourrait devenir la commandante en chef de la force de frappe française et déclencher l'équivalent de 48 000 Hiroshima sur une grande partie des États-Unis, de la Russie, de la Chine, de l'Afrique et sur l'Europe. C'est l'Obs, voilà, l'hebdomadaire L'Obs qui l'écrit. Alors attendez. Il y a quand même un petit problème, là. Cette force de frappe française, elle existe depuis quelques décennies. Je ne sache pas que quand ont été élus Chirac, Mitterrand, Hollande, Sarkozy et aujourd'hui Macron, que l'on ait dit à la veille de l'élection, attention. Alors, si je comprends bien le doigt sur le bouton, quand c'est la déclaration des doigts de l'homme, il n'y a aucun problème. Mais alors, ce serait une déclaration des doigts d'une femme, alors là, ça ne va pas du tout. Donc, si Marine Le Pen, on présume que si elle est élue, dans la journée de son élection, elle va appuyer sur le bouton 48 000 Hiroshima. C'est quand même bizarre, hein, les arguments qu'on peut employer, mais après tout, hein, tous les goûts ou tous les dégoûts sont de la nature.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Mais l'université, c'était pas Jussieu, c'était pas Censier, c'était pas Nanterre. Mais l'université, c'était le pavé de Paris. Le Paris de la guerre.
C'est Philippe Clay, chanson de d'après mai 68, Mes universités. Eh bien, écoutez, Mes universités, ça continue. Et il y a eu quand même aussi quelque chose de tout à fait étonnant. C'est quand même un mail de Karine Bernot. Karine Bernot est présidente de l'université de Nantes. Et vous savez que, normalement, l'article 7 du règlement intérieur dispose que le personnel de toute université est tenu au respect des principes de neutralité politique, ce qui me paraît la moindre des choses dans une université. Eh bien, ça n'a pas été le cas de Karine Bernot, présidente de l'Université de Nantes, qui a appelé dans un mail à tous les étudiants et tous ses collègues « Je vous appelle solennellement à voter le 24 avril pour faire barrage à l'extrême droite et donc au Rassemblement national ». C'est son opinion et c'est totalement légitime et respectable, mais pas qu'elle la fasse partager. Encore une fois, est-ce qu'une présidente d'université doit donner des consignes de vote? On en parlait un peu plus tôt avec Jean Lassalle, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire ça? Franchement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors elle dit oui, mon message est inhabituel, mais indispensable au regard des enjeux, etc. Et puis elle conclut, quel que soit le résultat le 24 avril, vous pouvez compter sur mon engagement pour défendre nos valeurs. Mais ça c'est très bien, Madame la Présidente, que vous défendiez les valeurs auxquelles vous croyez, bravo. Mais que vous donniez des consignes de vote pour une présidente d'université, ça paraît quand même pour le moins bizarre. Et votre fonction n'est pas de faire barrage. Votre fonction est de transmettre le savoir, de transmettre l'enseignement et de rester en tant que présidente neutre. C'est pas trop vous demander. Arrêtez de prendre tous, que ce soit les lepénistes, que ce soit les macronistes, les Français pour des enfants irresponsables. Arrêtez cela.
Et on se retrouve dans un instant avec Augustin de Colnay. Vous nous appelez au 0826 300 300 sur le sujet de la guerre économique.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face.
Bah justement, au service de notre pays, ça va être un grand sujet, compétition mondiale et intelligence économique. C'est le livre d'Augustin de Colnay, professionnel en intelligence économique, qui est diplômé de l'école de guerre économique, qui publie ce livre aux éditions Valeurs Ajoutées. Bonjour Augustin de Colnay.
Bonjour.
Alors, nous sommes en guerre, hein, on parle, c'est le générique de notre émission, comme vous le savez, le « Nous sommes en guerre », le fameux d'Emmanuel Macron, proféré en moment du Covid-19. Mais il y a une autre guerre qui se passe. On parle aussi de la guerre Russie-Ukraine et de ces cortèges d'horreur et de mort.
mais il y a qui ne s'arrête jamais, et le soleil ne se couche jamais sur l'empire de la guerre économique, justement. Et cette guerre économique, Augustin de Colney, justement, vous l'analysez, de façon très intéressante, et c'est très grand public, je le dis aux auditeurs. En fait, ce sont les entreprises françaises, les entreprises, qui sont prises au cœur de la guerre économique. On en parle assez peu, en général, dans l'actualité. Mais la guerre, elle n'épargne personne et elle touche beaucoup. Alors, cette guerre économique, vous parlez effectivement de l'espionnage, de qu'est-ce que c'est que la culture de l'intelligence économique, qu'est-ce que ça veut dire, y compris pas seulement pour le CAC 40, y compris pour les PME, qu'est-ce que c'est que la sécurité économique, que sont les conséquences aujourd'hui où on voit ce monde multipolaire émerger avec la Chine, la Russie, on parle du yuan, de la roupie et du rouble contre le dollar et peut-être l'euro, enfin sûrement d'ailleurs l'euro, on parle de souveraineté, on parle de tout ça. Alors, je voudrais d'abord, Augustin de Colney, qu'on définisse aujourd'hui, hier aussi, mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui en 2022 pour les entreprises, dans cette mondialisation, dans cette compétitivité, compétition mondiale, quel est leur rôle et en quoi sont-elles, je dirais, risques, en quoi elles sont-elles touchées et en quoi peuvent-elles effectivement subir ou pâtir de cette guerre économique mondiale ?
Merci pour cette interview. D'abord, il faut peut-être faire un constat, il faut peut-être revenir aux années 2000, où on est progressivement, on a eu une hyper compétition qui est devenue progressive pour arriver maintenant à une véritable compétition mondiale auxquelles font face les entreprises françaises, dans une compétition mondiale, en somme, où personne ne fait de cadeaux à d'autres. Regardez l'affaire des sous-marins australiens. Vous avez un fleuron français, Naval Group, donc qui fabrique des sous-marins français, qui, en Australie, a perdu un contrat de 50 milliards de dollars australiens. Je dis bien 50 milliards de dollars australiens.
Et ce... Qui correspondent en dollars américains, à peu près. C'est...
Alors, je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas, c'est parti au profit des Américains. Alors, on a d'autres cas un peu plus
anciens. Et ça a été à la dernière minute, enfin, dit-on. Mais il y a d'autres cas, je crois, aussi.
D'autres cas, on pourrait parler de la Chine, qui, en 2007-2008, a lancé un faux appel d'offres pour acquérir des trains à grande vitesse, des TGV. Et ça, uniquement dans le but de récupérer les mémoires techniques d'entreprises occidentales, Alstom Train, Siemens, l'ex-Bombardier. Et maintenant, c'est la Chine qui exporte des trains à travers le monde, y compris sur nos propres marchés domestiques. Et peut-être un dernier exemple qui fait tâche, l'affaire Alstom.
Oui.
Qu'est-ce qu'on a ? On a une entreprise française qui s'appelle Alstom Energy, qui a été racheté par un concurrent américain, General Electric, donc des spécialistes de la production d'électricité. Et ça a été rendu possible, cette acquisition, grâce au service du ministère de la Justice américaine. Mmh. Voilà, Alstom Energy qui a été mis à l'amende, et puis qui a été affaibli, et ensuite qui a été racheté. Donc moi, si vous voulez, vous avez parlé d'un grand nombre de menaces, diverses et variées, et j'ai essayé de me poser une question. Comment les entreprises françaises peuvent-elles se protéger si elles n'ont pas anticipé l'ensemble des menaces auxquelles elles font face? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti à la rencontre d'une vingtaine de professionnels de l'intelligence économique, des directeurs sûreté de grands groupes du CAC 40, des responsables financiers, des professionnels qui travaillent pour des cabinets d'intelligence économique. Et à chaque fois, je leur ai demandé quels sont les risques et les menaces auxquelles fait face votre entreprise. Et donc, j'ai essayé de dresser à partir de ça un véritable panorama général des menaces qui affectent notre entreprise. Et donc, vos auditeurs retrouveront dans ce livre l'ensemble des processus offensifs menés par des États et des entreprises étrangères contre nos entreprises françaises pour pouvoir se défendre.
Alors, c'est la guerre de tous contre tous, quelque part. Hein, on peut dire c'est Hobbes et non pas Machiavel là-dessus. Mais alors, justement, dites-nous, alors vous avez rencontré ces responsables sécurité de certaines entreprises. Quelles sont aujourd'hui, pour les entreprises françaises, quels sont, en tout cas certains, les risques les plus importants? Quels sont aujourd'hui, puisque effectivement chaque État ou chaque empire, pour entre guillemets, défend ses droits et se dit « moi je vais acquérir », vous avez parlé d'Alstom, vous avez parlé du TGV, vous imaginez notre TGV revendiqué par les Chinois, enfin un peu partout, et puis il y a beaucoup d'autres exemples. Comment se prémunir et quels sont d'abord les risques? Et quels sont les risques les plus importants ou les plus dangereux qu'on vous a énumérés?
Écoutez, moi, à la suite de ce livre, j'ai fait une revue de presse, donc ça fait plus de 3 ans maintenant que je suis les risques en intelligence économique.
Oui.
Ce que je peux dire, c'est que l'extraterritorialité du droit américain continue à faire beaucoup de dégâts.
Alors ça veut dire, expliquez-nous, parce que oui, vous parlez de la justice américaine qui peut, au fond, sévir partout.
C'est ça. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes une entreprise française.
Ouais.
On peut prendre le cas de, je peux reprendre l'affaire Alstom. Donc, ils sont accusés de corruption, notamment en Indonésie. C'est ce qu'on a reproché à Monsieur Perucci. Vous êtes condamné localement ou accusé localement. La presse, les Américains vont reprendre ce qu'il y a dans la presse locale pour faire leur veille, et ensuite vont vous assigner à justice devant leur juridiction à eux. En fait, il suffit
même si c'est en Indonésie et que ça ne dépend pas d'eux.
C'est ça. En fait, comment ils font ? Ils se basent sur leur monnaie, le dollar. Faut savoir que toutes les entreprises françaises font des transactions en dollars. Ils peuvent se baser aussi sur des filiales que vous avez aux États-Unis, sur des personnes, sur des US personnes, comme on les appelle, personnes qui peuvent être affiliées aux États-Unis, sur les données que vous stockez sur Gmail, sur Hotmail ou sur d'autres. Ou sur des serveurs.
Oui.
Voilà, ils ont une véritable boîte à outils qui permet de faire condamner des entreprises européennes. Il y a quand même un fait qui est impressionnant, c'est que les entreprises françaises, de 2010 à 2019, elles ont payé au titre du FCPA, donc qui est une loi américaine, plus de 14 milliards de dollars à la justice américaine. Je ne sais pas si vous rendez compte de ce que ça représente, 14 milliards de dollars. On pourrait s'en acheter des hôpitaux ou des porte-avions avec. Donc,
vous voulez dire, en 10 ans, des entreprises françaises ont payé 14 milliards de dollars à la justice américaine, enfin à l'État américain. Quoi.
C'est ça. Donc vous voyez, il y a eu Technip qui avait été condamné par le passé, donc il fait des forages pétroliers offshore, 100 millions de dollars de mémoire. Vous avez la Société Générale qui a été condamnée, vous avez eu la BNP avec l'une des plus grosses amendes de l'histoire, à peu près 8 milliards de dollars. Et la liste est assez longue.
Ouais.
Là, prochainement, c'est une entreprise européenne qui pourrait être de nouveau condamnée, Ericsson, qui est spécialisée dans les télécommunications. Ils avaient été accusés de corruption par le passé. Ils avaient déjà versé une amende de plus d'un milliard de dollars. Et là, ils pourraient de nouveau être condamnés. On leur reproche des faits de corruption, notamment en Irak, en lien avec Daesh. Donc ça, c'est une des menaces qui est encore très prégnante. Airbus a été condamné assez récemment en 2020, si je me souviens bien.
Mais en général, attendez, s'il y a corruption, les Américains, enfin je ne veux pas me faire l'avocat du diable US, mais il peut dire oui, mais d'accord, mais écoutez, vous avez été corrupteur, donc il faut vous condamner. Est-ce que, en général, enfin, sans prendre tous les 100% des cas, est-ce qu'en général, c'est vraiment une manière de dire aux entreprises françaises, notamment, écoutez, attendez, ne haussez pas trop la tête, sinon on va vous la casser, ou bien c'est fondé, d'après ce que vous avez vu ?
Alors, c'est totalement fondé. Hein. Vous allez sur le département de la justice, sur le site internet du département de la justice américaine, vous rentrez les mots-clés, je ne sais pas, Total, Alstom, et vous allez voir les grèves qui sont reprochées. En fait, ce qui me dérange, si vous voulez, c'est qu'entre 2008 et 2017, vous avez 26 entreprises qui ont été condamnées au titre du FCPA à des amendes supérieures à 100 millions de dollars. Et sur ce total, vous en avez 21 qui étaient non américaines et 14 qui étaient européennes. Donc, autrement dit, ce que j'ai constaté, c'est que vous avez peu d'entreprises américaines qui sont lourdement condamnées.
C'est ça.
Je rappelle également que toutes les entreprises françaises ou européennes qui répondent à des appels d'offres de plus de 200 millions de dollars ou égales à 200 millions de dollars sont, je dis bien, systématiquement mises sur écoute par la NSA.
Et
indirectement, ça va bénéficier aux entreprises américaines. Ça, c'est des faits qui ont été rapportés par Frédéric Perucci. On peut citer également Alain Juillet, qui est un ancien haut responsable à la DGSE et grand spécialiste des questions d'intelligence économique. Ça, ce sont des faits qui sont avérés.
On va en parler tout de suite après cette petite pause avec Augustin. À tout de suite.
Frédéric Piaucci qui a d'ailleurs préfacé votre livre et que nous avions reçu en octobre dernier sur l'affaire Alstom. Vous nous appelez au 0826 300 300.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Augustin de Colnay, compétition mondiale et intelligence économique, effectivement, on est au cœur du sujet, un livre absolument grand public, intéressant, pédagogique, sur ce qui se passe actuellement sur les fronts de la guerre économique. Et rappelez-vous, la guerre économique ne s'arrête jamais. Et justement, parlons un tout petit peu des conséquences et de ce qu'on vit économiquement depuis que la Russie a envahi l'Ukraine, depuis qu'il y a en principe des sanctions, des rétorsions. On voit Ursula von der Leyen, Borrell et toute l'Europe, enfin en tout cas l'Union, les présidents de l'Union européenne disent c'est pas possible, il faut sanctionner absolument les Russes. Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, qui disait on va réduire l'économie russe à zéro, etc., etc. Quid de ça, de cette guerre actuellement et de ses conséquences, parce qu'on voit très bien que dans la raquette, c'est le moins que l'on puisse dire, il y a beaucoup de trous dans la raquette, Augustin de Colnay.
Tout à fait. En fait, on a un conflit. Moi, si vous voulez, j'ai essayé d'écrire ce livre le plus factuellement possible, avec un grand nombre de faits. On a un conflit et des décisions politiques qui sont prises au niveau européen. Néanmoins, ce que j'observe, c'est que nous avons, donc par conséquence, un grand nombre d'entreprises françaises qui sont en train de quitter la Russie en raison de ce conflit. La Société Générale, qui résistait un peu, est partie, a annoncé qu'elle allait partir bientôt. Vous avez Auchan qui semble résister. Decathlon qui pour le moment, je crois, reste toujours là-bas. Groupe Renault, par exemple, aussi, qui a annoncé son départ. Et ce qui me perturbe...
Le Roi Merlin, je crois,
le
aussi.
Le Roi Merlin aussi. Il y a quand même quelque chose qui me perturbe, c'est que, bon, certes, on a une guerre qui est atroce, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi la défense des intérêts français. J'observe que l'Ukraine, c'est ce que disait Europe 1, l'Ukraine continue d'acheter du gaz à la Russie. Ils ont un bail qui va de 2020 à 2025, où ils vont percevoir de la part de la Russie 7 milliards de dollars.
Entre 2020 et 2025.
C'est ça, ce que disait Europe 1. Vous avez deux sortes de revenus. Donc, ils ont un revenu naturel qui est le gaz pour chauffer, et puis un revenu financier. Donc, moi, ce qui me dérange, c'est que je constate également que la Russie continue d'exporter du gaz et du pétrole russe. C'était une information du magazine Capital. Et nos entreprises françaises sont en train de quitter la Russie massivement sous l'effet des pressions internationales. Moi, je me souviens de l'affaire en Crimée. On a des agriculteurs et des éleveurs qui n'ont pu jamais, à la suite des sanctions, pu réexporter des fruits et des légumes ou de la viande à la Russie. Et j'ai des craintes que les entreprises françaises, nos entreprises françaises, ne retrouvent jamais les parts de marché qu'elles ont actuellement dans un futur à moyen ou court terme.
Alors, et quid en même temps, vous voyez ce que vous dites de la France, qu'ils ont, et en même temps, l'Allemagne ne sait pas du tout ce qu'elle fait, si j'ai bien compris.
Alors, c'est là où j'ai essayé de classer un peu mes risques dans l'ouvrage. J'observe que l'Allemagne est extrêmement dépendante du gaz russe. Je crois que c'est plus de 50% de... Elle reçoit plus de 50% de gaz pour chauffer et pour d'autres activités. On voit bien qu'au niveau des sanctions, les Européens sont en désaccord, notamment l'Allemagne qui freine au maximum pour ne pas mettre des sanctions sur le gaz. Moi, ce que j'avais listé à l'époque dans mon ouvrage, c'est notamment le projet Nord Stream 2. Je constate que les...
Rappelez ce que c'était le projet Nord Stream 2.
Alors, le projet Nord Stream 2, c'est un projet de pipeline qui va de la Russie à l'Allemagne, en passant par la mer Baltique, et qui a vocation à faire transiter du gaz, tout simplement.
Ça. Et qui a été arrêté.
Qui a été arrêté. À l'époque, quand j'ai écrit le livre, donc cet exemple-là, j'ai dû en parler il y a un peu plus d'un an, les Américains ont mis en place des menaces avec leur loi extraterritoriale en disant « Toutes les entreprises européennes qui coopèrent dans la construction de ce gazoduc risquent d'être sanctionnées si elles n'arrêtent pas leurs activités dans la construction de ce gazoduc. » Et il y avait toutes sortes d'entreprises, des assureurs, des entreprises chargées de la vérification de ce gazoduc, des entreprises en charge de la construction de ce gazoduc, notamment des entreprises suisses, par exemple. Et là, ce que je constate, c'est qu'il y a, on va acheter, c'est déjà fait, on va acheter aux États-Unis du gaz de schiste qui est 20 à 30% plus cher que le gaz russe.
Ça y est, c'est parti.
Et qui plus est, qui n'est pas écologique, puisque du gaz de schiste, on pourrait parler dans un autre débat des méthodes d'extraction. Je sais que les États-Unis, ça fait longtemps qu'ils rêvaient de nous vendre du gaz de schiste en grande proportion.
Qui est 30% plus cher que le gaz russe.
Et 20 à 30% plus cher, selon les informations que j'ai consultées.
D'accord.
Que le gaz russe. Donc, Certes, on a un conflit qui est assez atroce, où vous avez la Russie qui a attaqué l'Ukraine. Mmh. Néanmoins, moi, je reste fermement... ce qui m'intéresse, ce sont vraiment les intérêts français. Mmh. Où sont nos intérêts français ? Des conflits, il y en a partout dans le monde, malheureusement. Et encore une fois, je vous le redis, j'ai des craintes que les entreprises françaises qui partent actuellement ne retrouvent plus jamais les parts de marché qu'elles ont actuellement.
Oui, mais alors, Augustin de Colnay, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'au fond, l'Europe ne parle pas d'une seule voix, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est que l'Europe, enfin cette Europe économique, tant vantée, etc., on nous dit, c'est très bien, vous dites vous-même, écoutez, avant le dollar, allons sur l'euro, ce que disait aussi Frédéric Pierucci, mais en attendant, l'euro a l'air tout à fait arrimé au dollar, et que pour le moment, on voit bien dans cette guerre, que au-delà effectivement de ce qui se passe sur le terrain qui est assez terrible bien sûr les intérêts chacun regarde ses propres intérêts. Est-ce que nous Français nous regardons vraiment nos propres intérêts ou pas en ce moment?
Vous pensez à quel secteur d'activité,
par exemple ? Je pense, par exemple, à ces secteurs d'activité. Non, je pense aux grandes entreprises à qui l'on dit de quitter, par exemple, la Russie. Je pense aussi à, effectivement, le fait que, on a le nucléaire et on s'est tout d'un coup rendu compte que il ne s'agissait pas de faire baisser de 50%, de fermer 50% des centrales nucléaires au profit des éoliennes et parce que ça pouvait poser quelques problèmes, et deuxièmement, peut-être des panneaux solaires. Enfin, je veux dire, il y a, et je reviens à l'histoire de l'État, il y a quand même une politique à long terme, il y a à regarder au-delà de la semaine d'après. Est-ce qu'on a l'impression que ce n'est pas vécu comme ça et qu'on navigue, je dirais, au doigt mouillé de l'émotion ? Enfin, j'exagère, mais à peine.
Moi, ce que j'ai constaté, c'est que déjà, les Européens se tirent dans les pattes. Il suffit de prendre, c'est ce que j'ai constaté, l'Allemagne mène actuellement et depuis quelques années un lobbying intense pour porter atteinte à l'industrie du nucléaire français. Il se trouve qu'on a une électricité qui est actuellement plus compétitive que l'électricité allemande.
Bien sûr, oui.
Et on observe que par le biais de fondations, par des soutiens à des ONG, la filière du nucléaire français est sans cesse attaquée.
Et soutenue par l'Allemagne. Enfin, les
attaquants. Par un intense lobbying allemand.
Allemand, d'accord. Oui, voilà. Mais c'est...
Aidé, après, vous avez des ONG comme Greenpeace, on peut en parler aussi.
Oui.
Ce qui me perturbe avec Greenpeace, donc ils ont une image, une belle image, mais d'un côté, ils ont des investissements en Allemagne, ils ont une filiale qui s'appelle Planet Energy et qui a des investissements dans l'éolien. De l'autre côté, si vous voulez, dans leur main droite, ils ont des investissements dans l'éolien et dans leur main gauche, ils attaquent l'industrie du nucléaire. Donc, c'est ce que j'avais étudié quand j'ai fait l'école des guerres économiques. À partir de ce moment-là, à partir du moment où vous avez des investissements contraires aux entreprises que vous attaquez, vous n'êtes plus neutre.
Ah oui,
on est face à
ça s'appelle conflit d'intérêts, ça.
Il y a des conflits d'intérêts.
Ouais.
Et c'est pareil, Greenpeace contribue à détruire l'industrie du nucléaire français. Et je vous avoue que je ne comprends pas pourquoi nos responsables en charge des questions du nucléaire ne vont pas plus sur les plateaux TV pour défendre cette industrie, cette belle industrie du nucléaire.
Eh bien, on se retrouve pour parler de cela, du nucléaire et tout le reste, et de la guerre économique. Ça nous concerne tous, parce que les entreprises, ce sont elles qui fabriquent les emplois, qui font des emplois. On en parle tout de suite après cette petite pause.
Et pour défendre votre point de vue, vous posez toutes les questions, parce que vous avez vu, le livre est très complet. Vous nous appelez au 0826 300 300.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et on commence la partie avec les auditeurs jusqu'à 14h et nous sommes avec Emmanuel qui nous appelle de Pessac. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour André, bonjour à vous tous. Merci pour ce sujet à nouveau passionnant. Moi je voulais faire une petite remarque. En fait, la différence entre l'Allemagne, la Chine, la Corée, la Russie ou autres, peu importe ce qu'on pense de ces pays, c'est qu'ils ont un État derrière leurs entreprises. Ils ont une stratégie comme on a eu à l'époque de De Gaulle. Je ne suis pas un De Gaulâtre, même s'il a amené énormément de choses à la France malgré tout, puisqu'il a avait pressenti un petit peu toutes ces dépendances d'entreprise. Le numéro 2 d'Alstom a quand même fait 2 ans de tôle aux États-Unis sur des présomptions qui finalement étaient complètement fallacieuses. Donc on a des cow-boys partout, mais la différence c'est qu'ils ont un État qui les appuient, parce qu'ils comprennent qu'effectivement l'économie et les entreprises avec les brevets, d'ailleurs Alstom est un bon exemple, sont les principales sources de revenus de demain. On parle de réindustrialisation, mais si on vend tous nos brevets, on avait le TGV, maintenant il est copié, on avait les turbines Arabelle, maintenant on a récupéré les turbines, mais on n'a pas récupéré les brevets, donc les fonds ne seront pas là, les usines ne seront pas là non plus. Enfin, en gros, si on n'avait pas des chefs d'État, je ne sais pas que Macron d'ailleurs, parce que je pense que ça a commencé bien avant, et j'en suis sûr même, qui vendaient, comme vous le dites souvent d'ailleurs, la France à la découpe, on n'aurait plus de problème de réindustrialisation. L'Allemagne défend son patrimoine industriel, ouais, notamment dans la roue et ailleurs. Et on nous fait croire qu'on va réindustrialiser, mais on réindustrialise comment? Avec du Amazon et des hangars et des gens à 1000 balles par mois? Parce que les vraies technologies, on a été un inventeur du cinéma, on a été l'inventeur des trains. Des métros, parce que c'est pour ça qu'ils roulent à droite et le train roule à gauche. Parce que là, c'était les Anglais. Mais je veux dire, on a été l'inventeur d'énormément de choses qui auraient pu nous permettre de nous développer. Le problème, c'est qu'on n'a aucun État derrière, et c'est la maladie de la France. Et d'ailleurs, c'était un diplomate, je vais vous laisser là-dessus, parce que je ne vais pas vous bloquer l'antenne, mais il y avait un diplomate. Alors, je n'ai pas retrouvé la citation exacte, mais qui était un diplomate qui disait justement, mettez toujours un Français à la tête d'un État, à la tête d'une organisation internationale, parce que c'est le seul qui défendra jamais ses intérêts.
Augustin
merci
Colnay,
à vous tous en tout cas.
Merci à vous pour cette analyse. Effectivement, on peut se poser la question, cette guerre économique, hein, cette intelligence économique que vous défendez, cette culture de l'intelligence économique, est-ce que effectivement, sans État, sans un État, je ne dirais pas protecteur, mais au moins défenseur, vous parlez des Américains ou des Allemands, est-ce que ce n'est pas là où le bât blesse pour nous en France ?
Dans la revue de presse que j'ai faite récemment, il y a un article, je crois, qui est assez révélateur, malheureusement. C'était Les Échos qui disait « Sanctions extraterritoriales, le gouvernement français temporise ». En deux lignes, il disait quoi ? Initié en 2019, le projet de réforme de la loi contre les sanctions extraterritoriales américaines semble au point mort. En cause, un rapprochement avec l'administration Biden. Bercy répond être toujours à pied d'œuvre. Donc, autrement dit, vous avez la BNP qui est passée à la caisse, vous avez Alstom qui est passée à la caisse, Total qui est passée à la caisse en Iran, par exemple, etc., etc. Et malheureusement, je constate qu'il n'y a toujours pas de volonté politique, volonté de la part de nos décideurs. C'est le constat que j'ai fait depuis que j'ai écrit ce livre, au cours de 3 années. On a des structures qui commencent à se mettre en place. Vous avez le CICE, qui est le service d'intelligence économique de Bercy, qui commence à faire des recommandations, qui essaye de faire passer des lois pour protéger nos industries.
Mais ça n'a pas été acté pour le moment, en fait.
Il y a des actions qui sont menées dans le secteur pour les industries de défense. Vous avez la DRSD qui est extrêmement active, qui essaye de protéger les 4000 entreprises qui font partie de la base de la BITD, ce qu'on appelle la base industrielle. Alors, j'ai plus tout l'acronyme, mais qui concerne les industries de défense.
D'accord.
Voilà. Ouais. Je sais qu'il y a d'autres services étatiques qui sont à la manœuvre. Vous voyez, il y avait un article de Mediapart qui parlait de l'espionnage chinois, donc dans des laboratoires pharmaceutiques de 2018 à 2020, une doctorante chinoise qui laissait rentrer des compatriotes dans le laboratoire. Ouais. C'est un article de Mediapart. Là, c'est en lien avec l'université. L'université a appelé la DGSI qui est venue faire un diagnostic et qui a fait des recommandations. Malheureusement, parfois, c'est pas toujours très simple. Dans cet exemple-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est que vous avez des universités qui bénéficient des universités dans la recherche scientifique, par exemple, qui ont des docteurs, des doctorantes, qui bénéficient de fonds chinois, par exemple.
Ouais, c'est sûr.
Donc comment aller dénoncer des doctorantes qui
réfèrent de l'espionnage économique ?
C'est compliqué. Moi, ce que j'observe, c'est que je sais qu'au sein de l'État, j'en ai rencontré, notamment un haut gradé au sein du ministère des Armées, qui est en charge de la protection du patrimoine militaire, enfin du patrimoine nucléaire et scientifique. Je sais qu'il y a une prise de conscience de la part de certains, malheureusement pas de la part de tous. Il y a des stratégies étatiques qui sont en train de se mettre en place,
mais
je les trouve lentes. Et je pense que le temps urge, qu'on a un grand nombre de fleurons industriels qui ont été vendus, et je pense que malheureusement d'autres fleurons industriels vont disparaître.
Avant que tout disparaisse, avant que ce soit les soldes, la grande solde, et que tout doit disparaître, il faudrait peut-être qu'ils se réveillent, vous avez raison.
Et nous sommes avec Augustin. Pierre qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour Pierre.
Oui, bonjour. Alors, je remercie votre invité de remettre en lumière des faits aussi graves. Je me reconnais totalement dans ce qu'a dit l'auditeur précédent, et je vais en rajouter une couche, en fait, et l'illustrer. On a parlé des écoutes de la NSA, on a parlé de l'affaire Alstom, on parle des petites mains de l'espionnage avec cette doctorante chinoise. On a parlé de l'affaire McKinsey beaucoup ces derniers temps sous l'angle fiscal, le fait que McKinsey n'aurait pas payé d'impôts. Bon, McKinsey appartient aux fonds de pension américains, BlackRock, Vanguard. Pfizer appartient aussi à ces fonds de pension. Donc le vrai problème n'est pas fiscal, mais c'est un conflit d'intérêts énorme. On sait que les cabinets de conseil américains sont partout au sommet de l'État français. Donc en fait, les premiers agents de l'intelligence de la guerre économique et des Américains ne sont-ils pas ces cabinets? Et alors, j'ai voté Macron pourtant il y a 5 ans. Hein, j'ai voté Macron contre Fillon au premier tour, contre Le Pen au deuxième tour. Mais je me demande si Emmanuel Macron n'est pas l'agent double, en fait, le premier des agents doubles des fonds de pension américains. Et à la fin de son mandat, ne partira-t-il pas dans un conseil d'administration, parce que c'est un banquier d'affaires, donc dans un conseil d'administration d'un fonds de pension américain? C'est vraiment... C'est troublant. Le conflit d'intérêts, on n'en parle jamais. On parle des problèmes fiscaux, mais les conflits d'intérêts sont monstrueux.
On en parle, mais évidemment, ce sont des gros problèmes. Mais au-delà de la personnalité de Macron et de ce qui va lui arriver, effectivement, Oxygène Kölné, c'est une des choses intéressantes. Effectivement, ces cabinets de conseil, McKinsey et d'autres.
Et oui, appartiennent-ils aux fonds de pension? Les fonds de pension possèdent aussi les labos, ils possèdent les fabricants de toutes sortes, tous les industriels, ils possèdent tout le monde.
Oui.
Qui a le pouvoir?
Alors, qui a le pouvoir, à votre avis, dans cette guerre économique, dans cette intelligence économique? Non, parce que ce que Pierre pose, c'est vrai que c'est un vrai, vrai, vrai problème. Au fond... Qui a la culture de quoi? C'est-à-dire, c'est vrai qu'on parle de McKinsey, cabinet américain, cabinet enfin, international, centenaire, effectivement, BlackRock, la plus grosse société d'investissement du monde,
McKinsey
fonds de pension du monde.
McKinsey appartient à BlackRock.
Oui, non, mais nous sommes d'accord. Donc, effectivement, peut-on mener la guerre économique avec, je ne dirais pas des espions, soyons prudents et sérieux, mettons des grosses guillemets,
oui, oui, pas des espions.
Parce qu'il faut faire attention. Donc, oui. À votre avis, Augustin Kölné.
Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que bon, je ne souhaite pas parler de politique, parce qu'on est dans l'entre-deux-tours.
Oui.
En tout cas, donc je ne parlerai pas d'Emmanuel Macron ni de Marine Le Pen. En tout cas, ce que je peux dire, moi, j'avais interrogé un directeur financier d'une grande entreprise d'armement. La DGSI, ou les services de renseignement, lui avait demandé de ne plus travailler avec des cabinets d'audit financiers, ce qu'on appelle les 4 Big Four de l'audit, parce qu'il y avait de réels risques de captation d'informations sur la stratégie commerciale, sur les fournisseurs, etc., etc. Et puis sur les informations financières, bien entendu. Et donc, il a fait appel à des cabinets français, comme Mazars, par exemple. Il y a quand même quelque chose qui... Donc, dans l'affaire McKinsey, par exemple... Moi, là où je m'interroge, c'est où sont stockées les données de McKinsey, sur quel serveur? Est-ce que ce sont des clouds américains de type Amazon, Microsoft ou encore Google? Où sont ces données? Est-ce que lorsqu'ils récupèrent les données, elles sont cryptées? Il faut savoir que dans l'affaire Airbus, par exemple, quand vous avez eu un audit, quand ils ont été mis à l'amende et sous enquête, au département de justice américaine, vous avez un journaliste, Ali Daidi, qui a écrit un très bon livre sur ce sujet. Il dit quoi? Il disait que durant les interviews menées par ses avocats d'affaires, ils ont eu accès à un grand nombre de données numériques et qu'ils les envoyaient non cryptées, non sécurisées, vers leur pôle à eux.
Donc on est... Ils les envoyaient vers leur bureau.
Vers leur bureau, c'est ça. McKinsey, bon, au-delà de la polémique, bon, c'est un cabinet qui est anglo-saxon, en tout cas qui n'est pas français. Moi, ce que j'aimerais peut-être voir, c'est un peu plus de souveraineté sur nos institutions. Les entreprises privées, ma foi, font ce qu'elles veulent. Néanmoins, moi, en tant que citoyen, j'aimerais que nous puissions être plus souverains sur notre administration.
Mais le cloud, par exemple, c'est un cloud américain. Il y a des clouds, pardon l'expression, je ne suis pas du tout un expert, loin de là, en technologie. Mais est-ce que le cloud peut être protégé? Et comment? Parce que vous dites vous-même que les informations, effectivement, sont passées par le cloud, et c'est vrai que McKinsey et autres, il n'y a pas que McKinsey, transmet ces informations, et donc la souveraineté a bon dos, du coup.
Mais vous avez des entreprises françaises, je ne suis pas expert non plus dans ce domaine, j'ai essayé d'interroger des spécialistes de la cybersécurité, mais je peux citer OVH par exemple, et en plus vous avez actuellement des certifications de l'ANSSI qui sont en train d'être données à des acteurs français. Je sais que vous avez également une filiale de Dassault qui est spécialisée dans le cloud, je n'ai pas tous les acteurs en tête.
Non, bien sûr.
Ce qu'il faut savoir, en tout cas pour les entreprises françaises, il y en a beaucoup, hein, des multinationales, je ne vais pas les nommer, mais qui stockent toutes leurs données parce que c'est plus pratique sur des clouds, comme on l'a dit, d'Amazon, de Google ou de Microsoft. Moi, je vais vous lire une information qui m'a assez choqué. Vous avez eu le responsable de la sécurité des clients de Microsoft qui avait déclaré « Microsoft déclare qu'un tiers des demandes d'accès aux données émises par le gouvernement américain sont classifiées. Le client final visé par la consultation des données n'est pas informé. » Autrement dit, avec le Cloud Act, si les États-Unis font une réclamation auprès d'un prestataire informatique américain, y compris si son serveur est situé sur le territoire européen, le client, dans un tiers des cas, n'est pas averti.
Ah oui, vous voulez dire, moi, si j'ai donné des informations, mettons, qui est dans le cloud, le gouvernement américain les réclame, Amazon ou autre les donne, mais moi, je ne serai pas averti.
C'est ça, c'est ça. Ce qui me préoccupe aussi.
Ah oui, c'est
pour ça que nous avons besoin d'avoir une souveraineté, mais tout ça, c'est tout ce que je dis, c'est sourcé, c'est dans la presse, vous avez plus de 800 sources dans mon livre. Si vous voulez, le Cloud Act, il est né avec une affaire qui a eu lieu en Irlande. Voilà, vous aviez Microsoft avait des serveurs en Irlande, et dans une affaire de trafic de drogue, la justice, le FBI, avait réclamé à Microsoft des données qui étaient stockées sur des serveurs en Irlande.
En Irlande, oui.
Microsoft a dit non. Pas question. Et du coup, vous avez eu à la suite de ça le Cloud Act qui a été créé et qui a permis dans cette affaire de récupérer
des trafiquants
stockées sur les serveurs de Microsoft en Irlande. D'accord. Donc vous voyez, on revient toujours à cette même notion, c'est de souveraineté. Je ne pense pas que les États-Unis seraient prêts à stocker leurs informations sur des serveurs russes ou chinois. Ça m'étonnerait.
Oui, ça m'étonnerait aussi. Et je crois que
c'est ce qui me préoccupe,
c'est le contraire, si ce qui marche.
C'est ça.
C'est passionnant, mais on doit faire une courte pause. On a jusqu'à 14h pour en parler. Vous nous appelez au 0826 300 300.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et nous allons à Perpignan, il commence d'ailleurs à faire chaud aujourd'hui, et nous sommes avec Yvette qui nous appelle. Bonjour Yvette.
Bonjour Yvette.
Bonjour messieurs.
Bonjour.
Voilà, je voulais poser une question, ça fait un moment déjà. Vous savez que l'OPEP, enfin, on le sait, hein, que l'OPEP avait diminué sa production pendant la pandémie, puisque le carburant coûtait pas cher.
Ouais.
Et là, j'ai vu un entrefilé sur LCI, LCI met des trucs en bas là,
ouais.
Et j'ai vu qu'il y avait marqué « L'OPEP a décidé de ne pas augmenter sa production pour ne pas faire de remous à la Russie ». Voilà. Ils veulent pas augmenter. S'ils augmentaient leur production, on paierait moins cher le carburant. Mais eux, faut pas qu'ils fassent de remous avec la Russie. Alors nous, on est vraiment les dindos de la farce, alors.
Mmh. Oui, c'est même le titre d'un livre de Malika Sorel que nous avons reçu il y a 3 jours, Yvette. Et effectivement, on peut se poser la question si non seulement on n'est pas les dindons, mais on n'est pas en train de finir de se faire plumer. Ce qui est encore autre chose. Hein.
Pourquoi l'OPEP, elle veut pas augmenter? Pour pas faire de remous? Et puis nous, on irait jouer au Qatar, là, le mondial du foot? Ah bah non, hein.
Oui, c'est une vraie question. Oui, Augustin Cornet, je ne sais pas si vous avez étudié cet aspect, l'aspect guerre du pétrole. Quid là-dessus? Est-ce que c'est... parce que l'OPEP a très 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 souvent joué sur les prix du pétrole, et avant même qu'il y ait le conflit avec les Russes, etc. Quid du rôle du pétrole aujourd'hui, à votre connaissance?
Moi, j'ai constaté que Total, si je ne me trompe pas, des informations que j'ai lues, a à peu près 13 milliards d'investissements en Russie. Je suis content que pour le moment, il n'ait pas pris la ferme décision de quitter la Russie, parce que vous avez un conflit qui génère de l'émotion, certes. Après, vous avez les intérêts français. Je pense qu'il serait bon qu'on puisse continuer à avoir du pétrole à un prix raisonnable, avoir de l'essence qu'on puisse mettre dans notre voiture. Et je pense que le choix que fait Total actuellement me paraît extrêmement rationnel, malgré, encore une fois, l'émotion que génère ce conflit. Mais on ne peut pas quitter des pays que par... dictée parce que l'émotion dicte. On peut pas avoir.
Et puis la France n'est pas en guerre avec la Russie, que je sache. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, on verra bien. Mais effectivement, Total reste. Et effectivement, il faut rappeler aussi, vous l'avez dit.
C'est ce qu'a annoncé Patrick Pouyanné. Il a fait plusieurs déclarations en disant on ne peut pas quitter actuellement.
Rappelez à juste titre, vous rappeliez un peu plus tôt. Que le gaz de schiste américain, que les Américains sont en train de nous vendre, vaut 20 à 30% plus cher que le gaz russe. Il ne s'agit pas de défendre le gaz russe, mais enfin, il y a une question aussi de prix d'achat et de pouvoir d'achat.
C'est ce que j'ai vu dans la presse française. En tout cas, pour vos auditeurs, à la suite de ce livre, donc, qui contient plein d'exemples extrêmement concrets, j'ai fait une première revue de presse que vous pouvez trouver sur le portail de l'IE, donc, qui est le site...
Intelligence économique. Hein,
qui est le site internet de l'école de guerre économique. Encore une fois, je vous dis portail de l'IE.
Oui.
Et vous retrouverez ma revue de presse en tapant mon nom. Je vais en faire une deuxième pour continuer à garder l'actualité, à parler des risques en intelligence économique, parce que la guerre économique évolue sans cesse et elle prend des formes toujours qui sont toujours plus nouvelles. On a des nouveautés à chaque fois et il faut réussir à les anticiper. Demain, par exemple, je quitte un peu votre secteur du pétrole. Hein.
Oui, allez-y.
Demain, la Chine met en place des mesures extraterritoriales. Il faudra bien anticiper ce risque.
Oui, la Chine fait comme les États-Unis.
Elle pourrait faire comme les États-Unis.
Mais...
Nous sommes avec notre chère Safia de la Courneuve. Bonjour Safia.
Safia, bonjour. À nouveau.
Vous savez, André Barkov, quand je vous ai souhaité la bonne année, et là sur le retour, je me dis complètement de la folie pure ce qu'on est en train de traverser, et je vais revenir à votre invité Augustin de Colney. C'est bien, je n'ai pas écorché le nom.
Non, c'est parfait. Alors dites, Safia.
Oui, c'est une question qui m'intéresse naturellement, la guerre économique. Donc moi, j'ai produit une note et par rapport à ce que j'ai tracé sur la mandature qui repasse, en l'occurrence M. Macron, on sera dans du fine-tuning, c'est-à-dire que systématiquement, comme on est dans un monde fractalisé et que maintenant c'est un monde brisé en deux entre les mondes BRICS qui ont les énergies et puis les vieilles puissances occidentales, pour les effondrer complètement... Je pense qu'il y avait des stratèges déjà chinois dès que la Chine est rentrée à l'OMC qui a fait ce calcul d'effondrement de l'Europe.
L'Organisation mondiale du commerce, oui, c'est ça. Vous dites que, en fait, un certain nombre de puissances extra-européennes sont en train de travailler à la paupérisation, disons, pour ne pas employer notre mot, de l'Europe, d'une manière ou d'une autre, alors que l'Europe est encore très riche, bien sûr, mais c'est ça, Safia, ils travaillent à ça. C'est ça. Et est-ce que la guerre économique, alors justement, Augustin, c'est intéressant la question de Safia, est-ce que quand même on ne constate pas aujourd'hui, encore une fois, il ne s'agit pas de conclusion définitive, ce serait idiot, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un affaiblissement, je dirais, de l'Europe par rapport à cette guerre économique mondiale. Est-ce qu'on ne peut pas sentir un certain nombre de démarches, de stratégies, et au-delà même, évidemment, l'actualité étant cette guerre Russie-Ukraine, mais au-delà de ça, ce qui se passe en Chine, au Japon, ailleurs, en Asie, est-ce que l'Europe ne devient pas le maillon faible, disons ?
Moi, ce qui est certain, c'est que je crois qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle ère qui n'attendra pas les Européens. Si je reprends cette histoire de sanctions internationales menées contre la Russie, je constate qu'il y a un certain nombre de pays non européens qui continuent, comme l'Inde par exemple, à acheter massivement du pétrole et du gaz à la Russie.
L'Inde, par exemple.
L'Inde, elle a des liens assez privilégiés avec la Russie, elle lui achète beaucoup d'armements. Mmh. Et puis, de ce que j'avais lu, c'est que du temps de l'Union soviétique, ils avaient bénéficié d'une aide pour mettre au point leur arme nucléaire.
D'accord.
Vous avez regardé toutes les lésions aériennes qui restent ouvertes avec un certain nombre de pays, entre la Russie et un grand nombre de pays non européens.
Oui.
Si on prend les cartes de crédit, par exemple, si vous regardez votre carte de crédit, il y a marqué Mastercard ou Visa.
Oui.
Ou
American Express.
Ou American Express. Ça vous permet de payer à l'international. Bon, vous avez eu des sanctions qui ont été mises là-dessus, et ça a été désactivé sur un certain nombre de cartes de Russes ou de personnes liées à la Russie. Qu'est-ce que font les Russes? Ils sont en train de se tourner vers la Chine. Ils sont en train d'adopter leur système qui s'appelle Union Pay, si je prononce bien.
Oui.
Ce que je veux dire par là, c'est que il y aura toujours des sanctions. La Russie, on lui a imposé des sanctions pour la Crimée. Elle a résisté. Elle est même devenue indépendante forte, ouais. En termes d'agriculture. Peut-être pas totalement, mais elle a fait de grands progrès. Mmh. Elle nous a pas attendus. Et mes craintes, c'est que l'Union européenne reste à la ramasse, si je puis dire. Mmh. Et on a besoin d'avoir une politique forte. Malheureusement, je constate qu'il y a de toute façon une désunion au sein de l'Union européenne.
C'est clair.
Je le redis, hein, l'Allemagne freine des quatre de fer pour ne pas mettre d'embargo sur son achat de gaz russe.
Juste un mot là-dessus. Vous avez entendu, confirmer ou pas, vous me direz si vous le... Et que l'Arabie saoudite a accepté de vendre du pétrole à la Chine en payant en yuan. Alors que jusqu'ici, comme vous le savez, le dollar était la monnaie unique, enfin, reine et souveraine.
C'est clair que se passer du dollar, ça vous permet également d'éviter les sanctions, notamment américaines. Si vous prenez le cas de l'Iran, en soi, les entreprises françaises sont en droit de faire du business avec l'Iran. Mais comme toutes nos banques ont des licences bancaires aux États-Unis, si une banque française soutient une entreprise française dans des pays qui sont sous un embargo décrété par les États-Unis, qu'est-ce qui va se passer? Les banques n'auront plus le droit de commercer en dollars. Elles vont perdre leur licence bancaire. Elles risquent d'être également condamnées avec un véritable rouleau compresseur qui va s'en suivre. Les États-Unis pourraient mettre, si la banque est condamnée, ce qu'on appelle un surveillant en intégrité. En anglais, on dit un corporate monitor. Qui va avoir accès à l'ensemble des données de la banque.
Ils peuvent les mettre en
faillite. Pour la conformité. Enfin, ouais. Donc, moi, je suis étonné également qu'il n'y ait pas plus d'entreprises françaises qui fassent davantage de paiements en euros. On a une monnaie qui est commune, autant en profiter. Je pense que les Chinois et les Russes ne vont pas nous attendre là-dessus et qu'ils vont continuer à faire du business avec bon nombre de pays et que nous, nous allons rester derrière.
Voilà, il est minuit, hein, docteur Europe. Il faut faire attention. Et vraiment, la guerre continue. Et cette guerre-là, hélas, elle va continuer.
Et je rappelle votre livre « Compétition mondiale et intelligence économique » aux éditions Valeurs Ajoutées, un recueil, un panorama qu'on a pu le faire pendant une heure et quart. Et tout de suite, Brigitte Lahaye.
Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff.
Avec le parfum d'Air de France, 100% des bénéfices au service de notre pays.